Pictura Poésie présente un nouvel épisode de son podcast « Chambre avec vue ».
Bienvenue pour cette exploration aujourd'hui. On va parler d'une figure majeure de l'histoire de l'art, mais une figure qui fait pas mal débat. Paul Gauguin. On a tous en tête, je pense, ses toiles. Là, les couleurs incroyables de Polynésie. Mais derrière cette image du génie, ben, y a une complexité, une vraie ambivalence. Et ça interroge de plus en plus aujourd'hui. Surtout son rapport aux autres cultures, quoi.
Tout à fait. C'est une figure qui cristallise beaucoup de tensions actuelles.
Alors justement, on va s'appuyer sur une analyse assez récente, Gauguin, mythe, réalité et évolution d'une figure ambivalente, pour essayer de démêler un peu tout ça. L'idée, c'est de retracer son parcours depuis ses débuts en Europe jusqu'à ses dernières années aux Marquises. Comprendre l'artiste, bien sûr, mais aussi l'homme, ses ondes d'ombre, ses changements.
Oui, et c'est vraiment une navigation nécessaire, je crois, entre les mythes, parce que Gauguin lui-même a beaucoup fait pour construire sa propre légende, et puis les réalités qui sont souvent plus nuancées que la recherche nous apporte. Ce qui est fascinant, c'est cette trajectoire. On a un Européen, fin 19e, imprégné des idées de son temps, l'exotisme, le primitivisme, avec, il faut le dire, des préjugés coloniaux assez clairs au départ.
Ouais.
Et cet homme va être profondément marqué, transformé par son immersion longue en Polynésie. La question, c'est jusqu'où ça l'a mené? Est-ce qu'il est resté dans une vision un peu idéalisée, peut-être même opportuniste? Ou est-ce qu'il a vraiment développé une compréhension, voire une défense de la culture locale? C'est ce cheminement qu'on va essayer de voir.
D'accord. Alors, commençons par l'artiste, si vous voulez bien. On oublie souvent que Gauguin, au début, il peint pas du tout comme ça. Ses débuts, c'est l'impressionnisme.
Ah oui, tout à fait. Il est même très proche de Pissarro, il regarde Monet.
Il peint dehors, la touche rapide, la lumière. Assez classique pour l'époque, finalement.
Exactement. Il expose même avec les impressionnistes, mais on sent déjà assez vite une insatisfaction chez lui. Une envie d'aller au-delà de la simple impression visuelle. Et la rupture, elle commence à se dessiner plus nettement en Bretagne, à Pont-Aven.
Ah, Pont-Aven. C'est là qu'il devient un peu le chef de file d'autre chose.
Oui, c'est ça. C'est là qu'émergent le cloisonnisme et le synthétisme.
Alors ces mots-là, cloisonnisme, synthétisme, concrètement, ça veut dire quoi dans sa peinture?
Alors, le cloisonnisme, bon, le nom est assez parlant. Ça s'inspire un peu du vitrail, des émaux. On a de grands aplats de couleurs, des couleurs pures, vives, et elles sont séparées par un trait noir, ou bleu foncé, bien marqué.
D'accord, comme des cloisons.
Voilà, ça donne une forme très lisible, mais ça l'éloigne du réalisme. Et le synthétisme, ça va plus loin. Le but, c'est plus de copier la nature, c'est de synthétiser les formes, garder l'essentiel, et surtout y mettre l'idée, l'émotion du peintre, une dimension symbolique. La peinture devient plus mentale.
Plus intérieur, quoi.
C'est ça. Et déjà en Bretagne, il cherche cette authenticité. Un monde moins corrompu par la modernité parisienne qu'il fuit, il commence à parler de retrouver le primitif.
Et cette quête du primitif, ça le pousse à partir loin.
Très loin. La Polynésie, 1891. Et là, son art change encore. Ça devient plus radical. Ah oui, là, c'est une autre étape. Le premier séjour à Tahiti, puis après son installation aux Marquises, c'est une vraie intensification. Les couleurs deviennent presque arbitraires, guidées par l'émotion, le symbole.
Le fameux sable rose.
Le sable rose, les chevaux bleus, les corps ocre, rouges. Il ne cherche plus du tout à être réaliste, mais à être expressif, fort. Et les compositions, elles deviennent plus complexes. Il mélange des éléments décoratifs, des symboles qu'il prend à la culture polynésienne en les interprétant, parfois assez librement d'ailleurs, voire en les inventant un peu.
Il se les approprie.
Il se les approprie et il les mêle de façon assez étrange à des motifs chrétiens ou à ses propres questions existentielles. L'art, ça devient vraiment un langage pour lui. Pour dire ses angoisses, ses rêves, on pense forcément à la grande toile là.
D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?
Exactement. C'est un peu son testament pictural, un manifeste de cet art total, décoratif, symbolique, spirituel, tout à la fois.
Et tout ça, ça a eu un impact énorme sur l'art occidental. Comment on pourrait décrire cette révolution Gauguin?
Son apport, il est multiple. D'abord, il fait exploser les règles de la perspective classique. Carrément.
Donc il s'en fiche, quoi.
Complètement. Il utilise plusieurs points de vue dans une même toile, il aplatit l'espace, il superpose des plans sans profondeur logique, il joue avec les tailles des personnages de façon subjective. C'est une rupture énorme avec la peinture illusionniste traditionnelle.
Et la couleur, vous disiez, elle n'est plus réaliste.
C'est peut-être ça, sa contribution la plus éclatante et celle qui a eu le plus d'influence. La couleur chez Gauguin, elle est libérée de sa fonction de description. Elle devient un moyen d'expression à part entière, chargée de sens. Un champ peut être rouge vif juste parce que ça exprime une passion ou une angoisse, ou même juste pour l'équilibre de la toile.
C'est la couleur ou pour l'émotion.
Voilà. Et cette libération de la couleur, ça annonce directement le fauvisme. Matisse, Derain, ils vont pousser ça encore plus loin quelques années après sa mort.
Et il n'était pas seulement novateur, il allait aussi chercher des idées un peu partout, non ?
Absolument. C'est crucial dans sa démarche. Il prend des motifs océaniens, bien sûr, mais il regarde aussi beaucoup les estampes japonaises très à la mode à l'époque. Il admire leur simplification, leur cadrage audacieux.
Ah oui, le japonisme.
C'est ça. Mais aussi l'art égyptien, la sculpture primitive et même l'art médiéval européen avec ses formes stylisées, sa narration. Il mélange tout ça avec sa formation occidentale. Et cet art synthétique, conceptuel, qui met l'idée avant la copie du réel, ça ouvre des portes immenses pour le XXe siècle, vers l'expressionnisme de Munch par exemple.
Donc une influence qui va bien au-delà de son propre style.
Clairement.
Mais Gauguin, et c'était pas que le peintre, il y avait aussi l'écrivain. C'est un aspect qu'on connaît moins peut-être. Lui-même disait « je ne suis pas un écrivain ». Pourtant, l'analyse qu'on suit là, elle insiste sur l'importance de ses textes.
Oui, c'est très juste. Sa production écrite, elle est loin d'être juste un à côté. Elle accompagne son art, elle le commente, elle le justifie. Et parfois même, elle construit son personnage d'artiste. Il a laissé des journaux, des essais, des lettres, énormément de lettres, des pamphlets. Ses écrits sont vraiment liés à sa recherche d'un art total, où l'image et le mot se répondent.
Et le texte le plus connu, c'est « Noa Noa », le journal de son premier voyage à Tahiti. Qu'est-ce qu'on apprend de nouveau sur ce texte? C'est un récit fidèle?
Alors, l'analyse confirme ce qu'on savait déjà un peu. Noa Noa, c'est bien plus une construction littéraire, voire une stratégie, qu'un simple journal objectif. Bien sûr, il raconte des expériences, sa recherche de vie authentique, ses rencontres, mais il réécrit beaucoup.
Il arrange un peu ?
Il arrange, il dramatise, il emprunte des descriptions à d'autres voyageurs, sans le dire. Il plaque des fantasmes très européens sur la réalité tahitienne. Il fabrique une image très idéalisée de Tahiti, le paradis perdu, sensuel, etc.
Et il n'a pas écrit ça tout seul. Il y a eu une collaboration avec un poète, Charles Maurice. Pourquoi ?
Oui, cette collaboration avec Maurice, qui était un poète symboliste à Paris, ça visait d'abord à donner une forme littéraire plus présentable, disons. Mais aussi, et c'est important, à accentuer une certaine vision idéologique.
Laquelle ?
L'opposition très forte entre la civilisation européenne, vue comme décadente, artificielle, et le monde polynésien primitif, vu comme pur, originel. C'était un thème cher aux symbolistes et à Gauguin. Noa Noa devait être l'illustration parfaite de ça. Et ça servait aussi, bien sûr, à vendre l'image de Gauguin à Paris, l'artiste qui avait osé la rupture radicale.
Malin. Et au-delà de Noa Noa, son style d'écriture en général. On dit parfois qu'il est un peu brut, haché.
Oui, c'est une caractéristique qu'on retrouve souvent. C'est fragmentaire, elliptique, des ruptures de ton, un vocabulaire parfois simple. Ça peut donner une impression de naïveté, de spontanéité, sauvage. Mais l'analyse suggère que c'est pas forcément de la maladresse, c'est plutôt une posture.
Une esthétique choisie.
Exactement. Une esthétique calculée. Ce style faussement naïf, ça colle parfaitement à l'image qu'il veut donner. L'artiste instinctif, loin des conventions académiques, littéraires, bien lisses de l'Europe. C'est une façon d'affirmer qu'il est autre.
Et il y a un autre exemple assez fou de son utilisation de l'écrit, ce journal satirique qu'il a lancé à Tahiti, Le Sourire. Ça, ça nous dit quoi ?
Ah, Le Sourire, c'est passionnant. Il le rédige, il le grave sur bois, il l'imprime lui-même à Tahiti, entre 1899 et 1900. Là, on voit une autre facette. C'est un Gauguin combattant.
Il attaque qui ?
Il attaque l'administration coloniale française, qu'il trouve nulle et oppressive. Les missionnaires, dont il dénonce l'hypocrisie et les dégâts sur la culture locale. Et plus largement, les préjugés européens importés là-bas. Il utilise l'ironie, la caricature, la provocation. C'est très direct.
Et la forme est originale aussi.
Très urie.
des petits articles, des dialogues inventés, des poèmes, des aphorismes, le tout mélangé avec ses propres gravures. C'est un objet assez unique, très moderne dans ce mélange des genres et cette liberté de ton.
Donc on voit bien que ces écrits, c'est pas juste des commentaires, ce sont des actes, des outils pour construire son image, défendre ses idées, critiquer.
C'est ça, au début, peut-être surtout pour forger le mythe de l'artiste maudit et sauvage. Et puis plus tard, comme avec le sourire, pour mener des combats plus politiques, sociaux.
Clairement, cette tension entre l'artiste qui se construit et le critique social, ça nous ramène à sa personnalité. Complexe, on l'a dit, narcissique, arrogant, parfois.
Oui, ses traits, ils ressortent souvent. Dans ses lettres, ses écrits, il avait une très très haute opinion de lui-même, de son génie. Il pouvait être cassant, méprisant même. Mais bon, l'analyse cite aussi d'autres témoignages, comme ceux de l'historien Nicolas Thomas, qui nuance un peu ça.
Ah.
Oui, il pouvait aussi être généreux, loyal avec ses amis. Il a noué des relations sincères, semble-t-il, avec des gens en Polynésie. C'est pas tout noir ou tout blanc, quoi. Il échappe aux caricatures.
Et cette complexité, ça se voit aussi dans son art, non ? Pissarro, son ancien maître, il disait que c'était un art de marin, un peu comme s'il piquait des trucs partout.
C'est une formule très juste, je trouve. Ça pointe cet éclectisme fou chez Gauguin. Il pille, si on veut, ou plutôt il absorbe, il digère, il réinterprète des influences hyper diverses. L'art occidental savant, les arts primitifs, l'art japonais, l'imagerie populaire. Son génie, c'est justement de faire la synthèse de tout ça, de créer quelque chose de neuf et de très personnel avec ces éléments disparates.
Donc, c'est pas du tout l'expression pure d'un sauvage.
Ah non, pas du tout. C'est le travail d'un artiste très conscient de l'histoire de l'art, qui fait un métissage hyper audacieux.
Et les contradictions, elles sont là aussi. Il se rêve en sauvage, mais il cite Baudelaire et Verlaine.
Ben oui, c'est une des tensions les plus visibles. Il construit cette image de l'homme revenu à la nature, libéré des conventions. Mais ces textes sont bourrés de références culturelles hyper pointues de cette Europe qu'il dit fuir.
C'est paradoxal.
Complètement. Il part chercher une culture polynésienne authentique, mais il fait appel à un poète parisien pour arranger son récit. Et surtout, alors qu'il cherche ce paradis primitif, il se met à dénoncer de plus en plus fort les effets dévastateurs de la colonisation, de l'évangélisation, sur cette culture même. C'est un paradoxe constant chez lui.
C'est peut-être là qu'il faut vraiment parler d'une évolution de sa pensée. Au fil des années passées là-bas, l'homme qui arrive en 91, c'est plus tout à fait le même à la fin, en 1903.
C'est un point essentiel, oui, que souligne l'analyse. Son regard sur la Polynésie, sur la présence coloniale, il semble vraiment se modifier avec le temps, avec l'expérience. L'Européen du début, avec ses fantasmes d'exotisme, ses préjugés, il laisse place petit à petit à quelqu'un qui comprend mieux la réalité locale, ses difficultés, qui développe une empathie, voire un engagement.
Bien sûr, on peut toujours lire ça avec un regard post-colonial, comme le fait la source, dire qu'il cherchait une authenticité idéalisée qui, de toute façon, disparaissait déjà à cause de cette même colonisation.
Oui, cette lecture post-coloniale, elle est pertinente. Gauguin, il arrive dans une Polynésie qui est déjà marquée par plus d'un siècle de présence européenne. Les explorateurs, les missionnaires, les commerçants, les administrateurs. La culture originelle qu'il imagine, elle est déjà en pleine transformation, ou même en train de disparaître par endroits. Donc sa quête, elle est teintée d'illusions, c'est sûr. Et son regard, même critique, reste celui d'un Européen. Il n'échappe pas complètement à son époque.
Mais alors, qu'est-ce qui prouve le plus cette évolution tardive vers une critique plus forte, une défense des Polynésiens ?
L'élément le plus fort, et dont on prend toute la mesure assez récemment, c'est la redécouverte et l'analyse plus poussée d'un manuscrit qu'il a écrit tout à la fin de sa vie, à Ivaoa, aux Marquises, où il s'était retiré.
Ah oui ! Un manuscrit !
Oui, ce qu'on appelle parfois le manuscrit de Ivaoa. On le connaissait un peu, mais depuis 2020, on le comprend mieux. Et là, ça révèle une intensification très nette de son engagement critique.
Et qu'est-ce qu'il y a dedans concrètement ?
C'est assez incroyable comme document. Gauguin y dénonce de façon très virulente, très argumentée, l'administration coloniale française locale. Il pointe l'injustice des impôts pour les marquisiens, la corruption, les abus de pouvoir des gendarmes. Il prend vraiment parti pour les habitants. Il rédige même des pétitions pour eux.
Carrément.
Carrément. Et il affirme aussi des idées assez modernes pour l'époque sur l'égalité homme-femme. Et sa critique de l'Église catholique, elle est féroce. Il l'accuse de détruire les traditions, les croyances locales avec son intolérance. Là, c'est plus juste l'artiste qui cherche l'exotisme. C'est un homme en colère qui prend des risques pour dénoncer ce qu'il voit.
Eh oui, là, ça change pas mal l'image qu'on peut avoir de sa fin de vie. C'est plus qu'une posture.
Indéniablement. Ça nuance très fortement l'image du Gauguin seulement préoccupé par son art, par son mythe. Ça révèle un homme qui, à la fin de sa vie, isolé, malade, choisit quand même de mettre de l'énergie à défendre la communauté où il vit. Ça oblige à revoir tout son parcours en intégrant cette dimension critique, politique, tardive mais très réelle. On comprend mieux ses démêlés avec les autorités jusqu'à sa mort.
Bon, si on essaie de résumer un peu tout ça. On a donc un artiste qui révolutionne la peinture. Rupture avec l'impressionnisme, inventation d'un langage nouveau, synthétique, symbolique.
Oui.
On a un écrivain qui utilise ses textes pour se construire une image, mais aussi pour critiquer.
Tout à fait. Stratège et critique.
Et on a un homme, plein de contradictions, qui évolue d'une vision un peu rêvée de la Polynésie à une défense à la fin assez engagée de ses habitants contre le système colonial.
C'est une bonne synthèse, je crois, de cette complexité. Il faut vraiment tenir tout ça ensemble pour comprendre Gauguin. L'innovateur immense, le type qui gère sa propre légende, et ce critique social inattendu de la fin. L'évolution n'est pas forcément droite, les contradictions restent, mais il y a une transformation profonde au contact de cet autre monde.
Alors, pour finir, qu'est-ce qu'il nous laisse comme héritage Gauguin aujourd'hui ? Ça a l'air encore plus compliqué qu'avant.
Ben oui. Son héritage artistique direct sur l'art moderne, il est immense. Sa personne ne le conteste. La couleur libérée, les formes simplifiées, la porte ouverte vers l'abstraction, l'expressionnisme. Mais aujourd'hui, cet héritage, on ne peut plus le séparer d'une relecture critique.
Les débats actuels,
exactement.
Les questions d'appropriation culturelle, le regard sur les femmes polynésiennes dans ses tableaux, l'exotisme et ses ambiguïtés. C'est des débats nécessaires et ils sont en cours. Et le fait qu'il ait choisi de finir sa vie là-bas, et surtout qu'il ait évolué jusqu'à défendre ce monde dans ses derniers textes, ça ajoute encore une couche de complexité. C'est fascinant. D'ailleurs, son passage là-bas, ça continue de faire réagir, y compris chez les artistes d'Océanie aujourd'hui, qui dialoguent avec son œuvre, la questionnent, se la réapproprient.
Ça nous laisse peut-être avec une dernière question pour la route. Est-ce que le fait de connaître ses écrits de la fin, si critiques, si engagés, ça doit nous faire relire toute son œuvre peinte différemment ? Une œuvre qu'on a souvent vue comme idéalisée, fantasmée. Faut-il séparer l'artiste de l'homme ? Ou au contraire, est-ce que l'évolution de l'un éclaire forcément l'évolution de l'autre, même si c'est tardif et complexe ? La question reste ouverte, je crois.